Tendance Bruyère, l'émission qui fait le tour de l'actu du lycée.
Tendance Bruyère, l'émission qui fait le tour de l'actu du lycée.
Tendance Bruyère.
Nous commençons donc notre riche programme avec une chronique que nous aurons le plaisir d'écouter, qui a été réalisée par Eline et Dan et qui parle des difficultés que l'on peut rencontrer dans l'apprentissage.
Bonjour, donc déjà on peut se demander pourquoi choisir ce sujet. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup dans la vie de tous les jours, dans plein de domaines différents tels que le dessin, la musique, le montage vidéo, la modélisation 3D et beaucoup d'autres. Et lors de l'apprentissage de toutes ces disciplines, j'ai pu remarquer des schémas et des étapes communes qui se répètent peu importe les disciplines. Donc déjà, l'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? Si on cherche une définition, on tombe sur quelque chose comme un ensemble de mécanismes menant à l'acquisition de savoir-faire ou de connaissances. Mais comment ça marche précisément, l'apprentissage ? Par quelle étape on passe quand on commence à apprendre quelque chose ? À quel moment et à quel niveau on peut avoir des difficultés ? Selon deux livres, Psychologie de l'apprentissage et Encyclopédia et Behavior Modification Cognitive Behavior, il y aurait cinq étapes dans l'apprentissage. L'acquisition, c'est la phase la plus importante à mon sens, c'est dans laquelle on apprend la discipline, ou en tout cas où on se renseigne. Il y a l'aisance, c'est quand c'est facile, quand tout va bien. Ensuite, on a la rétention, c'est le fait d'être assidu dans la pratique d'une certaine discipline, parce que s'il y a un manque de stimulation, on perd l'aisance qu'on a acquis et on régresse. Le transfert, qui représente l'application de ce qu'on a appris par rapport à une nouvelle discipline, comment s'adapter par rapport à ça, ce qui va nous aider ou pas. Et à la fin, on a l'application, c'est l'étape finale, où on est capable d'appliquer la discipline dans un contexte différent que celle dans laquelle on l'a appris. Par exemple, si on a pris des cours de théâtre, on va finalement faire une pièce. D'un instrument de musique, on va finalement faire un concert. Ça, c'est l'application. Pour moi, il y a quelques sous-étapes qui se rajoutent, que j'ai pu observer. On a déjà la réalisation de sa propre ignorance. En effet, par exemple, la guitare, au début, on va faire des trucs très simples, comme juste des cordes pincées. Puis, on va se rendre compte on peut faire des accords en entier. Puis, qu'on peut bloquer plusieurs cordes en même temps avec un seul doigt. Puis, qu'on peut jouer plusieurs cordes en même temps, corde par corde. Et qu'il y a plein de manières différentes de jouer de la guitare. Mais au début, on n'en sait rien. On se dit, je vais apprendre à jouer de la guitare. Donc on a aussi sous phase de l'exercice où on va pratiquer une nouvelle discipline. Par exemple le dessin, on va essayer de refaire quelque chose de déjà existant. Mais l'apprentissage par la copie, c'est quelque chose de très commun en vérité, surtout dans le domaine créatif. Par exemple un instrument de musique, on va refaire des chansons qui existent déjà. En danse, on va faire des mouvements qui existent déjà. C'est une étape essentielle de se demander comment font les gens qui savent faire et comment on peut essayer de les imiter au mieux pour à notre tour savoir le faire aussi. On a également d'autres méthodes d'apprentissage, telles que l'apprentissage par l'erreur, qui consiste à apprendre de ses échecs et ne pas les reproduire. On a également l'immersion. L'exemple le plus parlant, c'est quand on essaie d'apprendre une langue, et on peut aller dans un pays qui parle cette langue. Par exemple, si on veut apprendre à parler anglais au mieux, on essaie d'aller dans un pays anglophone. Ici, on apprend parce que l'environnement nous y oblige. Si on revient au sujet de la rétention, donc rester concentré sur la discipline sous peine de perdre du niveau, je pense qu'on a tous à un moment une épreuve, un obstacle qui va intervenir. Par exemple, quand je faisais du parcours, au début on va apprendre des mouvements très simples, comme passer au-dessus de certains blocs, de différentes manières. Puis à un moment, on va devoir apprendre à faire un salto. Et en fonction des gens, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça sera toujours un pic de difficulté pour tout le monde. Et une fois qu'on va y arriver, la difficulté va redescendre jusqu'à ce qu'on apprenne un nouveau mouvement qui va à nouveau faire augmenter la difficulté. Et c'est ces pics de difficulté, je les ai retrouvés dans beaucoup de disciplines que j'ai apprises. Nous venons donc de voir comment l'apprentissage fonctionne. De manière générale, maintenant, on va voir des cas plus spécifiques où des gens peuvent rencontrer des difficultés, notamment ça, dû à certains handicaps.
Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui touche de nombreux élèves à un moment de leur vie, les difficultés d'apprentissage. Quand on parle d'apprendre, on imagine souvent une progression logique et fluide. L'enseignant apporte des connaissances, et si l'élève écoute et travaille, il apprend. Mais la réalité, c'est qu'il existe plein de freins qui viennent compliquer ce chemin. Certains d'entre nous, par exemple, ont des troubles spécifiques, dyslexie, dysorthographie ou encore de dyspraxie. Ces troubles rendent plus difficile la lecture, l'écriture ou même les gestes du quotidien. Et ce n'est pas un manque d'effort, c'est un fonctionnement du cerveau qui demande un accompagnement adapté. Il y a aussi les troubles du langage, ou des décalages entre ce qu'on entend, ce qu'on comprend et ce qu'on arrive à exprimer. C'est comme si qu'on parlait une langue étrangère. Ces décalages peuvent empêcher un camarade de suivre le rythme de la classe, même s'il est intelligent et motivé. Et puis, il y a les troubles de l'attention, comme le TDAH. Ces personnes bougent, décrochent, se perdent dans leurs pensées. Souvent, ils perturbent le cours car elles sont agitées et se font donc renvoyer. Et pourtant, ils peuvent avoir un vrai potentiel. Heureusement, il existe des solutions concrètes. D'abord, du côté de l'école, il est essentiel de mettre en place des pédagogies différenciées. Par exemple, utiliser des supports visuels, proposer des temps de travail plus courts en variant les activités, ou permettre à l'élève de répondre à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Des enseignants formés aux troubles de l'apprentissage peuvent adapter leurs supports, par exemple la taille et les interlignes des écritures pour aider les dyslexiques au niveau de la perception visuelle. Encore faut-il former les enseignants. Mais l'école n'est pas seule. D'autres professionnels peuvent aider, tels que les orthophonistes pour travailler le langage oral et écrit, ou les ergothérapeutes qui aident à travailler la coordination, l'écriture, l'organisation, mais aussi les psychomotriciens pour accompagner les patients dans leurs gestes et leurs postures, ainsi que les neuropsychologues qui posent un diagnostic précis et aident à mieux comprendre les capacités de chacun. Et bien sûr, les parents qui jouent un rôle clé dans l'accompagnement de ces difficultés, car c'est un investissement important. En comprenant ces difficultés et en travaillant ensemble, on peut mieux aider et mieux les valoriser. En fin de compte, que ce soit par des étapes bien définies ou à travers d'obstacles parfois invisibles, apprendre reste une aventure unique pour chacun. Il ne s'agit pas d'arriver le plus vite possible, mais de comprendre que chaque progression, même lente, a de la valeur. Et surtout, personne ne doit avancer seul. C'est en unissant nos forces et celles des enseignants, des familles et des professionnels du paramédical que l'on peut créer un environnement d'apprentissage bienveillant et adapté. Apprendre, ce n'est pas être parfait, c'est persévérer, comprendre et progresser à son rythme. C'est cette richesse de parcours qu'il faut encourager. Merci de nous avoir écoutés.